Radio Kapi.
Le journal grâce à Mzati.
Le gouverneur de la province du Nord Kivu sensibilise depuis le début de cette semaine les volontaires pour la défense de la patrie d'Iwazalendo au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nous en parlons tout à l'heure avec Rosalie Zawadi. Entre-temps, des violents combats opposent depuis ce matin les FRDC aux rebelles du M23 sur deux axes situés non loin de Kanyabayonga, toujours au Nord Kivu. Depuis une semaine, l'armée et ses rebelles se disputent le contrôle de cette commune rurale stratégique du territoire de Lubero. Notre invité est Finé Badibanga, le chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres dans les Haut-Katanga. Il parle de la problématique de la circulation de ces armes qui a une incidence sur la sécurité. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, le gouverneur des provinces sensibilise depuis le début de cette semaine les volontaires pour la défense de la patrie d'Iwazalendo au respect des droits humains, du droit international humanitaire et de la citoyenneté. La MONUSCO participe à cette sensibilisation pour insister sur l'importance pour ces volontaires de respecter les droits de l'homme. Pourquoi mener une telle campagne de sensibilisation aujourd'hui? La réponse dans cet élément de Rosalie Zawadi.
Cette initiative vise à réduire les exactions attribuées à certains Wazalendo par les passés. Le gouverneur général-major Peter Chirimwa Mikuba a conduit des séances de sensibilisation à Goma, Minova et Bweremana, soulignant l'obligation pour tous ces volontaires de respecter les droits humains.
Le commandant suprême a insisté sur les comportements des Wazalendo, sur les changements, que dès lors qu'ils sont supplétifs au FRDC, ils appartiennent à l'État. Et donc, ils doivent respecter les lois de la République.
Le chef de bureau de la MONUSCO à Goma, Omar Aboud, a également participé à l'une des séances de sensibilisation, réaffirmant l'engagement de la mission à soutenir les efforts du gouvernement congolais en matière de protection des droits humains.
On a discuté les sujets de droits de l'homme, de droits humanitaires internationaux, et c'est très important qu'on garde ces principes entre nous, surtout quand on est dans un milieu où il y a beaucoup de civils.
Les autorités provinciales se félicitent de l'impact positif de cette campagne de sensibilisation. Des éléments indisciplinés au sein des Wazalendo ont été arrêtés par leurs propres responsables et remis à la justice militaire. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Et puis, les acteurs sociopolitiques, notables et chefs coutumiers de l'Ituri, recommandent à l'État congolais de renforcer son autorité dans les zones occupées par les groupes armés pour permettre la mise en œuvre du programme de désarmement PDDRCS. Ils l'ont fait savoir au terme d'un atelier de deux jours de réflexion sur les conditions politiques nécessaires de redynamisation de ces programmes pour la stabilité de la province. Au cours de cette rencontre initiée par la section des affaires politiques de la MONUSCO, ils demandent aussi au gouvernement de renforcer la sécurité aux frontières et d'assainir le climat des affaires. Ézéchiel Mouzalia.
C'est au regard de la persistance de l'activisme et des groupes armés en province que cet atelier de réflexion sur des conditions politiques à mettre en œuvre pour la relance du PDDRCS a été organisé. Des discussions ont tourné notamment autour des mécanismes de la restauration de l'autorité de l'État, la circulation d'armes à feu, ainsi que de l'exploitation illicite des ressources naturelles qui continuent à alimenter les forces négatives. Face à ce défi, les participants demandent au gouvernement de renforcer son autorité dans les zones sous contrôle pour pousser les groupes armés à déposer les armes. Luc Malembe, un acteur politique de la place.
Cette possibilité ne peut se réaliser que si l'armée a déjà frappé tous les groupes armés, les a anéantis et les forces à remettre.
Pour le député provincial élu d'Arou et un des facilitateurs du jour, Étienne Ounega Egué, la restauration de l'autorité de l'État doit inclure aussi le renforcement du pouvoir des chefs coutumiers pour leur permettre de sensibiliser leurs fils et filles qui ont pris les armes à les rendre.
Il faudra que ces détenteurs de pouvoir d'État puissent avoir une certaine autorité qui se décline sur l'ensemble des entités qu'il gère, de manière à ce que du PDDRCS puisse se dérouler dans de très bonnes conditions.
Le gouvernement provincial et la MONUSCO encouragent cette démarche pour la consolidation de la paix et soutiennent ces résultats qui vont permettre à l'Ituri de recouvrer sa stabilité. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Revenons au Nord Kivu, où des violents combats opposent depuis ce dimanche matin les FRDC aux rebelles du M23 sur deux axes situés non loin de Kanyabayonga. Depuis une semaine, l'armée et ses rebelles se disputent le contrôle de cette commune rurale stratégique du territoire des Lubero. Martial Papi Mukiba pour les détails.
Les combats entre les FRDC et les M23 ont repris à l'aube aux environs des 4 heures heure locale. Des sources sécuritaires rapportent que les rebelles renforcés en troupes depuis samedi ont ouvert simultanément des fronts sur des axes menant à Kanyabayonga. Il s'agit des axes Rwindi-Kanyabayonga et Birundule-Kanyabayonga. Ils utilisent l'artillerie lourde pour pilonner les positions des FRDC. En réponse, l'armée a contre-attaqué et jusqu'à ce midi, les deux belligérants s'affrontaient toujours à l'arme lourde et légère. Quelques détonations sont attendues jusqu'à Kirumba, à plus de 40 km de la zone de combat. Depuis 5 jours, les FRDC et les M23 se battent pour le contrôle de Kanyabayonga, une commune rurale stratégique du territoire de Lubero. De par sa position géographique, Kanyabayonga ouvre en effet la voie aux agglomérations de Kaina, Kirumba, ainsi que les villes de Beni et Butembo. Sud. Elle donne accès à Rwindi, Mabenga, Vichumbi et Kiwanja ainsi que Kibirizi dans les territoires de Rutshuru. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Sachez par ailleurs que la mission conjointe gouvernement central et groupe de coordination des partenaires de la RDC vient de se clôturer dans la province du Sud Kivu. Le chef de la délégation et représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge de l'humanitaire, Bruno Lemarki, a tenu un point de presse à Bukavu après avoir consulté plusieurs couches de la communauté. Pour Bruno Lemarki, le désengagement de la MONUSCO ne devrait pas laisser un vide de nature à préjudicier la protection des civils et le reste et d'autres acquis légués à la province par la mission onusienne. On écoute un extrait du message de Bruno Lemarki choisi par Jean Kassami.
Un désengagement réussi et une transition réussie nous donneront des leçons pour les phases suivantes au Nord Kivu et en Ituri. À noter que la MONUSCO transitionne depuis très longtemps au Congo, donc nous tirons les leçons de ce qui s'est fait précédemment, notamment au Kasaï et au Tanganyika. C'est l'État congolais qui est en première ligne, mais l'appui des partenaires. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui se font déjà au Sud Kivu. On est loin de partir de zéro. Ce n'est pas une transition entre le gouvernement et les Nations Unies uniquement, mais beaucoup de partenaires sont impliqués. Ça sera un succès collectif. L'importance de toujours travailler, toujours plus en profondeur, sur les causes profondes des conflits qui se manifestent beaucoup dans cette province, notamment les questions foncières, la question de l'exploitation des ressources naturelles, y compris les minerais des conflits, la question des flux financiers illicites, de nombreux déplacés qui étaient sous la protection quasi exclusive de la MONUSCO, donc il faudra éviter une interruption. Et puis, l'accès humanitaire est très difficile dans cette province.
Nord Kivu, 60 leaders et membres des associations des jeunes des quartiers Mavivi, Nzuma et Matembo de la ville de Beni ont été sensibilisés hier à la lutte contre la désinformation, parmi eux 13 femmes. Cette sensibilisation organisée par la section des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO avait pour objectif de combattre la propagation des fausses informations à travers les réseaux sociaux et d'autres canaux, une situation qui est souvent à la base des manifestations violentes dans la région de Beni, touchée par l'insécurité à la suite de l'activisme des groupes armés. Josué Kapisa, chef du quartier Nzuma, est l'un des participants à cette sensibilisation, parle de son importance. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Pour nous, la séance a été très importante. Dans le sens où nous avons vraiment profité des informations qu'on n'avait pas accès. Or, il y avait d'autres informations peut-être que nous recevions aux réseaux sociaux qui n'étaient pas de vraies informations, mais avec les porte-paroles militaires, avec les chargés des informations, nous avons eu vraiment des informations par rapport au désengagement. Nous avons attendu qu'il y a des fois où on dit que la MONUSCO est en train de faire ça, mais qui semble être des fausses informations et nous sommes édifiés. Ce qui va changer dans le quotidien, l'attitude de nos populations, ils auront le temps maintenant de partager une information d'abord vérifiée et transmise après avoir vraiment cherché les sources. Peut-être il faut que je me renseigne telle part, telle femme pour partager ceci. Mais avant ça, les jeunes n'étaient qu'en train de trouver quelque chose, même aux réseaux sociaux. Ils donnent dans un groupe, ils vont dire ça par exemple sur téléphone. Mais aujourd'hui, on vient de nous dire qu'à recevoir une information, ayez aussi le temps de vérifier d'abord avant de partager.
Rendons-nous au Kasaï oriental pour parler de la clôture ce dimanche à Mukamba, 90 km de Mbujimayi, du symposium sur le développement des Kabeya Kamwanga. Ces travaux de 3 jours sont organisés par les fils et filles de cette entité administrative en vue de chercher les voies et moyens pour développer le territoire des Kabeya Kamwanga. Des explications à Mbujimayi avec Esther Ndalafina.
Le territoire de Kabeakamwanga est l'un des 5 territoires que compte la province du Kasaï oriental. Son chef-lieu, Kenankuna, est situé sur la RN1, axe Mujimai-Kananga. Malgré ces terres arables, la population croupit dans la misère. Raison pour laquelle les fils et filles de ce territoire se sont réunis pour examiner la situation. Explication de Gabriel Kasonga, président du symposium.
Après avoir constaté que les choses n'évoluaient pas, nous nous sommes mis ensemble et nous avons mis tout le monde d'accord pour que nous parlions à nous-mêmes en se regardant dans les yeux.
Les 150 filles et fils du territoire de Kabeakamwanga qui participent à ces travaux de 3 jours ont identifié certaines causes qui empêchent le développement de cette entité administrative dont voici.
Oui, la mentalité d'abord, mais nous venons de constater que beaucoup d'argent a été déjà versé à Kabeakamwanga, mais que certains fils s'en sont appropriés pour leur bien. Les causes, c'est l'esprit aussi de nos chefs coutumiers qui rendent très difficile l'acquisition des terres par ceux qui veulent venir investir. Le problème, c'est nous-mêmes qui n'acceptons pas ceux qui viennent vers nous.
Signalons que les participants à ces symposiums ont formulé quelques recommandations à suivre pour développer les territoires de Kabeakamwanga. Esther Nalafina Mbujimai, Radio Okapi.
La culture dans ce journal. La Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda procède du 31 mai au 11 juin à la répartition des droits d'auteur, des auteurs-compositeurs, éditeurs ou producteurs et des auteurs dramatiques. Cette opération vise 206 sociétaires et c'est pour le deuxième semestre de l'année 2022 des recettes provenant des provinces du Haut-Katanga, Congo central et Kinshasa. Le directeur général intérimaire de la Sokoda, Jomondonga Moyama, explique la symbolique de cette opération au micro de Jean-Marc Matwaki.
Cet exercice est très très symbolique dans la mesure où, pour la première fois depuis 13 ans de son existence, que la Sokoda procède au paiement des droits d'auteur des artistes et créateurs en observant les normes universelles de la gestion collective de droits d'auteur en matière de la répartition des droits. Ceci est le fruit des réformes opérées en la matière. Parlant de cet exercice, la répartition donc question, à l'issue des opérations des sondages, comme vous avez entendu parler, et des collectes de programmes des œuvres d'esprit auprès des utilisateurs d'œuvres d'esprit dans les provinces du Haut-Katanga, pour la première fois, Congo central et la ville de Kinshasa. Les données qui devaient nous provenir de provinces du Sud-Kivu et de la Tchopo ne nous vont pas parvenir dans les délais requis pour des raisons indépendantes de notre volonté. Elles seront exploitées à la prochaine répartition. C'est ça le principe. D'où la Sokoda va rémunérer le droit d'exécution publique de 206 bénéficiaires. 206 bénéficiaires de droits, des œuvres musicales et dramatiques.
Cette triste nouvelle, décès hier à Montréal, au Canada, du pasteur Baruti Kasongo, responsable de l'église Baruti Tabernacle à l'âge de 77 ans. Cela après un malaise selon des sources de son église. Personnalité respectée, pasteur Baruti a exercé son ministère durant près de 50 ans, dont 34 ans comme pasteur du message du temps de la fin du prophète William Marion Branham en République démocratique du Congo. On écoute un extrait d'une de ses prédications au cours de laquelle il parlait de sa mort. Extrait choisi par Alain Irunga.
Dieu sait quand est-ce que ce pied de feuille va sécher et tomber sur la terre. Je ne sais pas quand je partirai. Le jour où je partirai, soyez calme. Dieu mettra quelqu'un d'autre.
L'actualité, c'est aussi le sport avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. La boxeuse congolaise Brigitte Mbabi s'est qualifiée ce dimanche à Bangkok, en Thaïlande. Elle a battu au dernier tournoi qualificatif international la Cap-Verdienne Ivanusa Moreira par arrêt de l'arbitre au troisième round dans la catégorie des moins de 60 kilos d'âme. Au total, Brigitte Mbabi a remporté 4 combats dans ses éliminatoires pour s'adjuger ses précieux sésames. Au total, 3 boxeurs congolais vont représenter le pays à ces rendez-vous planétaires de Paris. Il s'agit de Marcela Sakobi, Peter Kabeji et Brigitte Mbabi.
Actualité internationale.
C'est la fin d'une hégémonie politique en Afrique du Sud. Le Congrès national africain ANC, le parti de Nelson Mandela, n'est plus en mesure de gouverner seul. Avec seulement 40,21% des voix obtenues aux élections générales, selon les résultats provisoires de la commission électorale après le dépouillement des 99,85% des votes, l'ANC perd sa majorité et va devoir former une coalition.
L'invité.
Nous recevons Finé Badibanga. Il est le chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres dans les Haut-Katanga. Il revient sur la problématique de la circulation de ces armes qui a une incidence sur la sécurité. Finé Badibanga s'entretient à Lubumbashi avec Jean Gandou.
Finé Badibanga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
En quoi consiste le travail de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres que vous pilotez dans la province du Haut-Katanga?
C'est une structure étatique qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui travaille avec un arrêté interministériel, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, qui pilote d'ailleurs, accompagné du ministère de la Défense, ainsi que le ministère des Affaires étrangères. Notre mission, c'est d'aider le gouvernement dans le but de combattre, d'éradiquer, de voir les transhabilités, ou plus sur la circulation illicite des armes légères et de petits calibres et de la violence armée.
Mais nous savons qu'ici, dans la province du Haut-Katanga ou à Lubumbashi en particulier, il y a des armes qui crépitent de partout. Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas à qui ces armes appartiennent.
Exactement. Nous sommes en train de travailler un peu là-dessus. Le problème, c'est que récemment, il y a l'opération de marquage des armes sur les éléments de force de défense, de sécurité, c'est-à-dire la PNC et les FRDC. Alors, on a pu faire ce travail. Jusque-là, nous avons un rapport partiel, donc de la clôture au niveau de la ville de Lubumbashi. Il nous reste encore la ville de Likasi ainsi que la ville de Kasumbalesa, y compris aussi les territoires. On va pouvoir continuer avec tous les éléments de force de défense, c'est-à-dire PNC ainsi que les FRDC.
On peut connaître le nombre de détenteurs d'armes dans la ville de Lubumbashi qui sont répertoriés par vos services?
En fait, nous sommes en train de nous battre pour présenter au gouvernement provincial ainsi qu'au conseil de sécurité un fichier fiable, raison pour laquelle présentement je ne saurais pas vous dire combien. Même si on est en train de travailler là-dessus. Dans les jours, peut-être à venir, vous aurez quand même la réponse là-dessus.
Qui peut détenir une arme légère de petit calibre et quelles sont les conditions pour y accéder?
La loi autorise à tout citoyen congolais de se protéger si la personne est beaucoup plus menacée. Mais cette procédure, il y a des préalables, il y a des conditions. Les conditions, en est qu'il faudrait tout d'abord qu'on sache qui est la personne qui a besoin de la protection, qu'il doit être muni d'une arme. La personne fait quoi tout d'abord dans la vie? Il faudrait que son casier judiciaire soit réellement clean. Parce qu'il y a de ces gens-là, peut-être, ils cherchent à se venger d'une manière ou d'une autre. Il va chercher une arme. Oui, chercher une arme, c'est pas un problème. Mais nous, à notre niveau, nous avons un service technique qui fait des investigations. Savoir réellement qui est cette personne, connaissant même là où la personne réside. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Avant de coutoyer à qui que ce soit le document qu'il faudrait pour la détention d'une arme. Ici, par exemple, à Lubumbashi, quand nous sommes en train de parler, que nous sommes en train de lutter contre l'accumulation des armes à feu, vous retrouverez ici à Lubumbashi, il y a de ces gens-là qui sillonnent même en pleine journée avec les armes dans leur véhicule. C'est quoi ça finalement?
Des civils?
Des civils, oui. Pourtant, ils ne sont pas autorisés. Et ces gens-là, si vous essayez un peu de voir, c'est nous, notre service technique, qui fait un document pour que, au niveau national, qu'on ait maintenant à coutroyer à la personne le permis de port d'armes. Si vous sillonnez à Lubumbashi, tous ces gens-là qui se disent qu'ils sont détenteurs des armes, est-ce qu'ils ont le permis de port d'armes?
Et ces armes proviennent d'où?
Nous sommes en train de recenser même les fabricants des armes artisanales. Nous sommes en train de les identifier de manière à ce que, si peut-être quelqu'un venait avec une arme, nous saurons que ça vient de tel endroit. Et il y a de ces armes-là peut-être qui viennent de l'extérieur.
Comment sont-elles entrées sur le territoire?
C'est ce que je suis en train de vous expliquer, monsieur le journaliste. Normalement, pour importer une arme, seul le VPM intérieur qui est appelé à délivrer l'autorisation d'importation d'une arme. C'est pourquoi nous sommes en train de tirer aussi la sonnette d'alarme à tous les transporteurs qui viennent beaucoup plus de l'Afrique australe. Donc si le service de sécurité ne sait pas ouvrir l'œil, c'est-à-dire l'insécurité continuera toujours. Raison pour laquelle nous, à notre niveau, nous sommes en train de combattre la circulation illicite de ces armes-là. Alors si on doit donner les armes ou les documents à n'importe qui que ce soit, quel sera maintenant le rôle de la police nationale congolaise? Pourtant la police est là pour protéger les civils ainsi que leurs biens.
Est-ce que vous faites le suivi pour savoir réellement ce que les détenteurs de l'arme en fait? Quel est l'usage qu'ils en fait?
Tous ceux-là qui sont déjà passés en oubli, après 3 mois, nous sommes en train de faire une étude approfondie avec ces gens-là. Même l'utilisation de leurs munitions. Parce qu'au moment où la personne vient pour se faire identifier, disant que voilà, j'ai une arme, je viens ouvrir mon dossier, il déclare même le nombre de munitions qu'il a. Après 3 mois, nous sommes en train de vérifier. Si la personne a été menacée et qu'il a utilisé une munition, il faudrait qu'il vienne déjà signaler que non, voilà, moi j'étais attaqué, j'ai utilisé une munition. On sait que sur les 10 qu'il avait, il est resté avec 9. Donc après 3 mois, il y a ce contrôle-là. Nous sommes en train de faire ce contrôle 4 fois l'an.
Finé Badibanga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, M. Jean Gandou.
C'était l'invité du journal, Fine Badibanga, qui répondait aux questions de Jean Gandou. Fin de ce journal, coordonné par Jacques-Yves Moulima et supervisé par Jude Bilanda, mis en onde par Deps Vita. Merci de l'avoir écouté. Place à l'émission des sports avec Vanessa Kongolo et Kanishimu Kongo Fanikizi.